Bonjour Michael.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Michael, tu étais le candidat aux dernières élections législatives pour lutte ouvrière à Mayotte. Et si je t'ai invité, c'est pour parler de Mayotte, de ce qui s'y passe. En ce moment, on est toujours en train de compter les morts dus au cyclone Chido à Mayotte. Le bilan risque d'être très élevé. On parle de potentiellement plusieurs milliers de morts et de disparus. J'ai une première question. Toi, comment est-ce que tu vis la situation? C'est un des plus gros désastres humanitaires dus à une cause naturelle sur le territoire français depuis 100 ans. Quels sont les premiers mots, les premières émotions, toi, que tu ressens aujourd'hui?
Alors, tu disais que c'était une catastrophe naturelle, on y reviendra, hein, pour moi et pour les membres de lutte ouvrière et pour beaucoup d'habitants là-bas qui vivent au quotidien. C'est plus une catastrophe politique. C'est des choix qui ont été faits et qui sont à la cause de ce que l'on voit, qui suscite une émotion énorme, évidemment. Donc, comme un peu tout le monde, moi je ne suis plus à Mayotte, je suis actuellement à La Réunion. Donc, comme un peu tout le monde qui a des proches, des amis, de la famille là-bas. On a vécu tout simplement l'angoisse. Hein. Je vais juste répéter un peu les témoignages d'un peu tout le monde. Parce que, effectivement, on voyait des images arriver et puis coupure de réseau, on a été coupé de nos proches. Donc ça n'a pas duré un jour ni deux, hein, mais ça a duré 3 jours. Là, actuellement, il y a encore des personnes que je n'arrive pas à joindre. Donc beaucoup d'inquiétudes. Et puis, effectivement, c'est aussi un petit peu différencié. C'est-à-dire que les proches qu'on avait qui vivaient dans des maisons dures, solides, on est plus rassuré que pour ceux qui vivent sous l'atoll, tout simplement, et on n'est pas sûr qu'ils réussissent à aller se sécuriser. Pour autant, moi je suis à La Réunion et j'y ai vécu avant. On a déjà eu des épisodes cyclonique. C'est vrai que l'habitude fait qu'on n'imaginait pas que ça puisse avoir de telles conséquences, mais en fin de compte, c'était juste tout à fait prévisible par rapport aux infrastructures qu'il y a là-bas et aux carences de l'État depuis 1841, tout simplement.
Alors justement, tu dis que c'est pas une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe politique. Qu'est-ce que tu entends par là? Là, tu as l'air de sous-entendre que c'est à cause du désengagement de l'État ou de l'engagement de l'État pas dans la bonne direction.
Bien sûr, c'est-à-dire que je vais faire un parallèle, je vais illustrer le propos avec un exemple très concret. En 2000, il y a eu un cyclone qui s'appelait Dina et qui a frappé La Réunion. Peut-être qu'il était d'une intensité un peu moindre, je pense que les vents s'approchaient des 200 km/h. Il n'y a pas eu l'hécatombe, le chaos, la désolation qui vit à Mayotte. Il n'y a eu aucune victime. Donc finalement, on a deux territoires qui sont des départements français dans l'océan Indien. Et pour une même, entre guillemets, catastrophe naturelle, pour un même événement naturel, on voit que les conséquences sont totalement différentes. Donc mettre ce qui se passe à Mayotte sur le compte du climat, du réchauffement climatique. D'ailleurs, évidemment qu'il y a des conséquences à l'activité humaine, ce genre d'épisode va se multiplier, mais justement, on le sait. Ce qui criminalise encore plus la politique de l'État français à Mayotte, qui a une constante, qui est désolante, qui est révoltante, c'est qu'il y a un désintérêt, il y a du mépris pour ces vies humaines. Il y a un élément quand même qui est assez marquant, moi qui me fait un peu réagir, c'est qu'effectivement, on ne sait pas combien il y a de morts, on ne sait pas combien il y en aura, mais ça correspond également à ce qui se passe pour toutes les personnes qui perdent la vie sur les Kwassa-Kwassa. Le président Macron avait eu le bon goût de faire une blague. Et bien, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on arrive à un tel stade de mépris qu'on ne comptabilise même plus les morts d'une politique française. Donc oui, c'est des choix politiques, nous on y a vécu, et déjà en mode normal, vous l'avez certainement suivi, il n'y avait pas d'eau, il n'y a pas suffisamment d'écoles, c'est un désert médical, les gens pour se faire soigner sont obligés de partir s'ils ont les moyens, sinon ben, ils vont devoir porter leur maladie, voire en mourir. Il y a tout qui dysfonctionne là-bas, et là dans cette situation dégradée, ben, on peut évidemment s'attendre au pire.
Mais qu'est-ce qui, selon toi, fonde cette différence fondamentale que tu pointes du doigt entre, par exemple, le territoire réunionnais et le territoire de Mayotte? Pourquoi l'État s'investit, l'État français s'investit de façon différenciée entre Mayotte et La Réunion? C'est sa géographie à Mayotte, c'est-à-dire collée dans l'archipel des Comores, et du coup l'immigration qui en découle, qui fait que l'État, voilà, prend des décisions qui sont différentes à Mayotte qu'à La Réunion.
Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y a les Comores juste à côté. Ça, c'est vraiment une impasse politique. Parce que dès lors qu'on adhère à ce propos et qu'on considère que Mayotte ne pourra pas s'en sortir dès lors qu'il y aura autant de Comoriens sur le territoire, dans ce cas-là, on légitime la situation actuelle. On légitime qu'il n'y a pas assez d'écoles parce qu'il y a trop de Comoriens. On légitime qu'il n'y a pas assez d'eau parce qu'il y a trop de Comoriens. Donc là, on se tire une balle dans le pied. Et c'est un discours qui est porté par tous les politiques à Mayotte, hein, et qui nous rend politiquement impuissants. Non, évidemment que le problème ne vient pas de là. C'est des choix politiques. Et c'était un petit peu l'objectif de notre candidature ultourière à Mayotte, c'est justement d'essayer de créer une force sociale qui revendique justement une meilleure condition d'existence.
Mais aujourd'hui, c'est aussi une des difficultés de parler de ce territoire, parce que précisément, comme tu le rappelles, les forces politiques principales à Mayotte sont souvent très xénophobes vis-à-vis de la population comorienne présente sur le territoire de Mayotte. Ils tiennent des propos, franchement, les représentants de Mayotte tiennent des propos qui sont parfois à la limite du racisme pur et simple. Et ils ont l'air de représenter, puisqu'à chaque fois ils sont réélus, notamment sur cette base-là, ils ont l'air de représenter la population de Mayotte. Et lorsque on essaye de tenir un discours alternatif, on dit: ah bah oui, mais vous connaissez pas Mayotte. Vous êtes des petits blancs de l'Hexagone, genre vous comprenez rien, etc. Enfin, je veux dire, c'est assez complexe, je trouve, d'entendre, et c'est pour ça que je suis heureux que tu parles, d'entendre d'autres choses qui se disent sur le territoire de Mayotte, quoi, qui est largement représenté par des gens qui sont racistes vis-à-vis et xénophobes vis-à-vis des Comoriens.
Ben effectivement, les médias ou les têtes politiques portent un certain discours que j'ai pu confronter lors de ces élections, et je tiens à le dire, c'est que finalement, ensuite, j'ai pu discuter avec effectivement beaucoup de collègues ou même des passants dans la rue, avoir des échanges, et voilà, justement, d'avoir porté cet autre discours, pardon, ça a été entendu. Et je peux t'assurer que finalement, la population, c'est une conscience de classe à créer, une conscience politique, pardon, à créer, celle qui va passer de la lutte de race ou de nationalité ou de culture ou de couleur à une lutte de classe. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un discours qui a été entendu et qui a été porté. Il faut absolument pas réduire l'avis de la population mahoraise à ce que disent certains de leurs élus ou les médias. Et puis, il faut savoir aussi que c'est une île qui est traversée par des fléaux, tout simplement, hein, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Hein, ça, vous le savez, les pénuries d'eau, le chômage, la violence. Écologiquement, c'est une île qui se détruit. Il y a même le choléra. Et puis là, il y a ce cyclone. Donc, c'est une île qui est, entre guillemets, traumatisée. C'est très dur de réfléchir dans ce genre de situation, d'avoir le recul nécessaire. Et puis de comprendre aussi, ça c'est nous, le discours que nous portons et qu'on essaie de diffuser pour créer une force sociale, comprendre que les mots de Mayotte, effectivement, ne procèdent pas d'une immigration. On pourrait mettre autour de Mayotte n'importe quel rideau de fer ou bordure protectrice. Les gens, malgré tout, passeraient parce que l'île d'Anjouan est qu'à 70 km. Mais que le problème de Mayotte vient bah, justement d'une politique française qui est totalement criminelle. Il faut vraiment dire, hein. Ce qui s'est passé avec ce cyclone l'a été avant parce que rien n'a été préparé, l'a été pendant parce que ne serait-ce que les places d'hébergement étaient de quelques milliers alors qu'ils savaient qu'il y avait peut-être 100 000 personnes qui vivaient sous l'atoll. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Ben, rien n'a été prévu. Et puis aussi, éventuellement, encore aujourd'hui, parce que je ne pense pas que la réponse soit à la hauteur des besoins qui sont catastrophiques. En tout cas, tous les échanges, tous les retours qu'on a avec nos proches qui sont là-bas sont unanimes pour dire que c'est les gens qui se débrouillent majoritairement encore aujourd'hui, 4 jours après le cyclone. Donc oui, c'est un discours dur à porter, un petit peu novateur, parce que
Attends, juste pour bien
historiquement,
comprendre,
Mayotte a voulu faire la France.
pour bien comprendre, Michael, toi, tu es pour une
Ouais.
liberté de circulation et d'installation entre les Comores et Mayotte?
Bah écoute, moi je fais partie d'un groupe politique qui est communiste, internationaliste et révolutionnaire, et effectivement, on est pour la libre circulation de tous. Et certainement pas pour empêcher des personnes en quête d'une vie meilleure, les empêcher de se déplacer. Je ne pourrais absolument pas dire ça, ne serait-ce que par mon expérience personnelle, parce que je suis d'origine indienne, mes arrière-grands-parents sont partis à Madagascar, mes parents en France, et moi-même je suis parti à La Réunion, à Mayotte, pour avoir une vie meilleure. Je serais totalement hypocrite et inconséquent de m'opposer à ce que d'autres le fassent. Et de toute façon, c'est la marche du monde qui va comme ça, les gens se déplacent pour avoir une vie meilleure. Et le monde est mondialisé, donc tout se déplace. Il n'y a aucune raison qu'on s'oppose et qu'on se divise entre nous. Justement, c'est vraiment ça le message que nous, on essaie de faire passer à travers tous ces événements, c'est que pour arrêter de subir, il faut arrêter de se diviser, arrêter de se partager les miettes, comme on dit, et cibler les vrais responsables de la situation dans laquelle on est. Prendre un exemple très concret, hein, on sait que là, il y a un risque épidémique parce que le réseau d'eau n'est pas rétabli. Et de toute façon, même s'il est rétabli, il est totalement défaillant. Hein. Donc, il y a le choléra qui est apparu et le choléra risque de réapparaître à nouveau. Il faut bien, par exemple, avoir en tête qu'il y a un article de l'Express qui disait que Sanofi produisait un vaccin pour le choléra. Sanofi, un laboratoire sud-coréen, et Sanofi a arrêté en 2020 de produire ce vaccin parce qu'il n'était pas assez rentable. Non pas parce qu'il n'était pas rentable, mais parce qu'il n'était pas assez rentable. Donc, pour faire du profit, les actionnaires de Sanofi ont décidé d'arrêter de sauver des vies. Résultat des courses, à Mayotte, il y a le choléra, on n'avait pas assez de vaccins, mais il y en a pas assez dans le monde. On n'a pas pu faire une politique de vaccination. Notre action publique est limitée par ces parasites capitalistes. Et donc, c'est ça le cœur de notre propos à nous, à Lutte Ouvrière, c'est que non, le problème, c'est pas qu'il y a plus pauvres que nous ou qu'on est trop sur cette terre. Raisonner comme ça, c'est encore une fois être impuissant politiquement. Le problème, c'est une organisation sociale qui, comme son nom l'indique, est capitaliste, donc a pour objet d'augmenter les profits des capitalistes, combien même d'ailleurs il doit y avoir des morts. Et Mayotte en est l'exemple.
J'ai une dernière question, Michael. Est-ce que tu penses que le cyclone qui vient de balayer Mayotte peut être susceptible de provoquer un choc de solidarité, notamment entre tous les habitants et les habitantes de cette île, et être susceptible, dans une certaine mesure, de porter les revendications, notamment d'unité que tu porte là, toi, dans ton discours, et qui est présent dans le discours de Lutte Ouvrière? Ou est-ce que tu penses au contraire, comme on commence aussi à l'entendre, j'ai écouté Bruno Retailleau ce matin à la radio, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, qui utilisait justement ce cyclone pour remettre sur le devant de la scène son agenda xénophobe.
C'est très difficile de faire un pronostic, c'est-à-dire que je pense que les gens qui sont sur place et qui constatent la situation et le désarroi des personnes, qu'importe leur couleur et leur nationalité, auront une empathie certaine. C'est d'ailleurs le cas, je veux dire, beaucoup de Maoris partagent des images des bidonvilles qui sont éventuellement occupées majoritairement par des Comoriens. Donc on voit bien qu'il y a certaines. Discours xénophobe, une certaine haine qui a explosé. Par contre, effectivement, on peut redouter que face à l'incurie de l'État et aux pénuries, notamment en eau et en nourriture, un certain manque surgisse. Et dans ce type de situation, dans l'urgence, il est très difficile de prévoir de quelle façon les gens vont se comporter. C'est très difficile d'émettre un pronostic. En tout cas, nous, on souhaite vraiment hein, diffuser un discours qui Arrête de surfer sur la catastrophe naturelle, sur l'impuissance, sur l'action de l'État posteriori qui distribue quelques bouteilles d'eau comme nous on l'a connu lors de la pénurie en eau il y a un an de ça, et que les responsabilités soient mises sur la table, et que chacun comprenne que c'est pas une fatalité, c'est pas la faute à l'immigration, c'est la faute à une politique française, à un système capitaliste qui méprise nos vies, tout simplement. Et ça va aller de mal en pire si on ne s'oppose pas socialement.
Eh ben, merci beaucoup, Michael, pour cet entretien.
Je te remercie à toi.